Bonjour à tous et à toutes. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. La bienfaisance et la libéralité. Deux termes qui veulent dire faire du bien aux autres, l'entraide, la générosité. Derrière ces deux termes se cachent beaucoup, beaucoup de choses. Alors nous sommes invités en cette journée consacrée au défi Michée à considérer ceux qui sont les plus pauvres. Il dit dans la parole de Dieu les indigents. Nous sommes encouragés en tant que chrétiens au niveau mondial à approfondir notre engagement en faveur des pauvres. C'est cette phrase que nous trouvons sur le site internet du Défi Michée. Nous sommes encouragés en tant que chrétiens, au niveau mondial, à approfondir notre engagement en faveur des plus pauvres. Alors c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, malgré tout. Et c'est pas évident de parler sur ce thème. C'est un thème difficile et en même temps, c'est un thème qui est omniprésent dans la parole de Dieu. Il n'est donc pas simple de ressortir un passage, un verset, tellement, et nous l'avons vu ce matin au travers des chants et des textes que nous avons lus, tellement le souci des autres et le souci des plus faibles est présent dans la parole de Dieu. Alors, il m'a semblé intéressant que l'on regarde ce matin ensemble un passage de la parole de Dieu qui nous parle d'un événement qui s'est produit, d'un événement qui a entraîné l'engagement de chrétiens à venir au secours des plus pauvres, envers ceux qui étaient dans le besoin. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, du verset 1 à 15. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 15. Je lis dans la version du Semeur. Quant au secours même destiné à ceux qui sont à Judée, à ceux qui appartiennent à Dieu, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant en Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentés sur ce point et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi, il est écrit, on le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qui vous porte à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Alors rappelons un petit peu les événements qui amènent à ce secours que Paul décrit ici. Un événement va mettre à l'épreuve la foi des premiers chrétiens. C'est une famine. Une famine qui est annoncée par la bouche d'un prophète, Agabus, venu de l'église de Jérusalem, et qui va se produire sous le règne de l'empereur romain Claude, aux alentours de 44 après Jésus-Christ, et qui va durer un certain nombre d'années. Il nous est dit en ces termes, en Actes 11, verset 27, qu'en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre de Judée. Elle arriva en effet sous Claude. Et les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul de Tarse, alias Paul. Cette famine annoncée nécessite donc l'action immédiate des frères des églises qui ont été au bénéfice de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Alors comment va s'organiser cette aide? Les membres de l'église d'Antioche saisirent donc avec empressement cette occasion de venir au secours de leurs frères de Judée dans la pauvreté. D'autres églises vont aussi venir en aide à leur tour aux chrétiens de Judée. Et cette aide va prendre la forme d'une collecte faite dans les différentes églises. Paul exprime aux Corinthiens dans sa première lettre comment cette collecte doit s'organiser. Il dit donc dans sa première lettre au chapitre 16, verset 1, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous donne le premier jour de la semaine ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. » Cette collecte prend donc la forme d'un don mis à part pour leurs frères qui sont dans le besoin. Elle ressemble dans sa forme d'ailleurs à la collecte selon la loi mosaïque. Selon la loi de Moïse, la collecte était un acte connu qui se déroulait la troisième et la sixième année du cycle sabbatique qui en comptait sept, la septième année étant l'année de relâche en l'honneur de l'Éternel. Le peuple d'Israël mettait alors à part la dîme de leurs produits pour la partager avec les plus pauvres et avec les indigents. En Deutéronome 14, nous lisons « Au bout de trois ans, tu sortiras la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et ils se rassasiront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. » Cette collecte ici, pour l'église de Jérusalem, va dépasser les frontières de la Judée. c'est tout d'abord Antioche qui aide. Mais c'est aussi la Macédoine et l'Achaïe, c'est-à-dire la Grèce actuelle. Paul dit aux chrétiens de Rome, « Je vais à Jérusalem pour le service aux saints. » Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu. Et elles le devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Le secours, nous le voyons, vient d'Antioche, au nord de la Syrie, mais aussi de la Galatie, là où nous connaissons l'église des Galates, dans la Turquie actuelle, la Macédoine, où nous avons les églises de Philippe et de Thessalonique, l'Achaïe, où nous avons l'église d'Athènes et de Corinthe. Les églises ont entendu la souffrance des frères et décident de participer malgré les centaines de kilomètres qui les séparent. Et vous pouvez bien imaginer qu'à l'époque, il est bien plus difficile qu'aujourd'hui d'apporter un secours aux frères qui sont dans le besoin. Parce qu'en plus du besoin qu'il y avait à cette époque, rappelez-vous, il y avait aussi la persécution. Les chrétiens de Corinthe, sont donc au cœur de cette collecte. Et le but là du passage que nous avons lu, c'est d'encourager les Corinthiens à considérer leur engagement, l'engagement qu'ils ont pris, et à en considérer toute la portée. Paul va encourager les Corinthiens à ce que leur bonne disposition soit suivie des actes. Et pour dire cela, Paul témoigne aux Corinthiens comment leur bonne disposition a été perçue par les chrétiens de d'autres églises de Macédoine. Il dit « Je connais votre bonne disposition à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant « En Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. » La bonne disposition à donner des Corinthiens a eu une incidence sur les chrétiens des églises de Macédoine. En effet, les Macédoniens ont eux-mêmes participé à cette collecte. Et vous allez voir comment. Au chapitre précédent, en 2 Corinthiens 8, Paul dit que c'est au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs besoins, selon leurs moyens, pardon, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Voilà comment les Macédoniens ont participé. Les églises de Macédoine n'étaient pas forcément dans l'abondance. Il nous est dit même qu'ils étaient dans une pauvreté profonde, eux-mêmes. Mais cette église a trouvé, les églises de Macédoine ont trouvé les ressources pour donner et donner au-delà de leurs moyens. Alors si Paul rappelle cela à l'église de Corinthe, ce n'est pas pour les mettre en défaut. Ce n'est pas non plus pour leur donner l'ordre d'agir, mais c'est pour les renforcer dans leur décision de le faire, pour les fortifier afin qu'ils le fassent. Cela montre aussi que l'engagement de certains peut être moteur pour d'autres. Cela a une incidence sur l'ampleur du secours apporté. La volonté des Corinthiens a été une stimulation pour les églises de Macédoine. Et Paul, aujourd'hui, en témoigne devant eux. Mais il leur dit « Maintenant, le temps est venu pour vous aussi de mettre en pratique cette décision afin qu'elle ne soit pas que des paroles. » Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Paul dit « J'envoie les frères notamment Tite, qui était au service de cette collecte, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Paul envoyait des frères afin qu'ils préparent et qu'ils aident les Corinthiens à préparer ses dons, afin que lorsqu'il vient, afin que lorsqu'il sera venu avec ses collègues, tout soit prêt, afin que vous soyez prêts. Je crois qu'à un moment donné, et c'est le cas ici, nous devons être prêts. Nous devons marquer notre engagement par des actes, afin que ce que l'on a annoncé ne soit pas réduit à néant. Lorsque Paul enseigne l'Église des Galates, il dit ainsi, « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Pratiquons le bien envers tous pendant que nous en avons l'occasion, pendant que nous en avons la possibilité, pendant que nous en avons le temps. Et vous savez que ce temps n'est pas étendu à jamais. La vie d'une église, la vie des gens qui composent une église, dure quelques décennies. Pendant cette décennie, ces décennies-là, nous pouvons, dans la mesure de nos moyens, venir en aide à ceux qui souffrent. Mais la possibilité que nous avons d'aider les autres est peut-être encore plus courte. Est-ce qu'un jour, ce ne sera pas nous qui aurons besoin de l'aide des autres ? Sommes-nous prêts, nous aussi, à venir en aide à ceux qui sont les plus pauvres ? Dans nos familles, à côté de chez nous, dans notre église, dans notre pays et au-delà de nos frontières. Dans le premier épître de Jean au chapitre 3, verset 16, nous lisons « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. » Paul demande aux Corinthiens d'être prêts dans leur engagement et que ce secours soit apporté dans la vérité de ce qu'ils ont annoncé. Alors au moment de préparer ce secours, l'apôtre Paul va exhorter les Corinthiens à considérer ce don, effectivement, mais à le considérer dans toute sa dimension. Il dit d'ailleurs au verset 6, « Rappelez-vous, souvenez-vous, sachez-le » dans certaines traductions. Rappelez-vous au moment où vous allez donner. Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Paul souhaite que les Corinthiens considèrent ce secours dans l'amour, comme libre, comme généreux, tout simplement fait dans la joie. Paul encourage les Corinthiens, au moment de préparer leur don, à réaliser ce secours dans la joie, avec un plein consentement. Il sait très bien la différence qu'il y a entre un don qui est fait avec joie et un don qui est fait par obligation, par contrainte. Il sait donc qu'au moment de donner, de la perception qu'ils ont du don, de l'état de leur cœur dépendra le secours apporté. Eh bien, au moment de donner, pour les Corinthiens, Paul va s'attacher à leur montrer que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a pour ceux qui agissent dans la joie, sans contrainte ni regret, des fruits et des bénédictions pour leur vie. Et les Corinthiens doivent considérer cette dimension-là. L'apôtre Paul aborde donc maintenant une dimension dans le don, une dimension spirituelle. Il dit au verset 8 à 10, écoutez bien, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Paul dit tout simplement que derrière tout don apporté, semé, se trouvent des bénéfices, se trouvent des bénédictions, donc du fruit. C'est à l'opposé de ce que nous vivons tous les jours. Qui peut me dire qu'un don gratuit permet de recevoir en retour un gain ? Ça n'existe pas dans le monde dans lequel on vit. Ça n'existe pas. Il n'est pas possible pour une entreprise de donner et de survivre. Eh bien, Paul nous dit que ce que l'on fait pour autrui n'est pas sans effet. N'est pas sans effet, en retour par la grâce de Dieu. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Non seulement nous ne manquerons de rien, et c'est une promesse, mais plus encore nous serons comblés. Et un des passages que Paul reprend ici pour appuyer son enseignement, une partie du passage qu'il prend, c'est celui qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, du verset 10 à 11. Et que je voudrais vous lire. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et vous le connaissez tous, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et de pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accomplis mes desseins. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui dépasse l'entendement, qui dépasse les notions que nous avons dans l'humanité. Ce que nous faisons en Dieu, par Dieu, ne revient pas sans effet. Et ce passage du prophète Ésaïe nous parle de la puissance de la parole de Dieu qui est annoncée, c'est-à-dire semée, et qui ne revient pas sans effet, c'est-à-dire sans avoir accompli la volonté de Dieu, sans avoir porté du fruit. Et de la même manière, Paul nous montre ici, dans ce passage, que celui qui donne avec joie, non seulement Dieu fera en sorte qu'il ne manque de rien, mais en plus, il augmentera les fruits. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Ça dépasse les lois du capitalisme. Paul dit exactement par là que ce que nous faisons ne sera pas sans effet. Nous serons enrichis à tout égard, aussi bien sur le plan de nos besoins que sur le plan spirituel. Alors je vous rassure, je n'ai pas dit que vous alliez avoir 162 millions d'euros comme les personnes qui ont gagné au loto. Non, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais ce que nous faisons sera porté à notre bénéfice. C'est une promesse de Dieu. En Proverbe 22, verset 9, nous lisons « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » C'est une promesse de Dieu. Il sera béni. Dans son enseignement, l'apôtre Paul va maintenant montrer combien ce secours que les Corinthiens ont promis, est une source abondante de bienfaits. Il dit en effet au verset 12, « Le secours de cette assistance pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans la pauvreté. » C'est le premier enseignement. Bien évidemment, quand nous donnons, nous savons que ce don va pourvoir aux besoins de ceux qui sont pauvres. Mais ce secours pourvoit non seulement aux besoins physiques de ces personnes, mais bien plus encore, il apporte des bienfaits spirituels. Il nous est dit au verset 11 et 12, « Ce secours fait abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. De la part des frères de Jérusalem, Cela fait abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Cela fera offrir à Dieu des actions de grâce. Ce sera une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce secours n'a pas simplement un effet de pourvoir aux besoins physiques des croyants. Il a aussi pour effet d'offrir à Dieu des actions de grâce. Et donc les bienfaits sont bien plus grands que ce qu'on peut imaginer. Les chrétiens vont recevoir ce don et seront touchés par ce don. Mais ils seront touchés bien plus profondément que ce qu'on peut imaginer. Ils seront touchés dans leur cœur, dans leurs pensées. Et ils feront monter vers Dieu toute leur reconnaissance. Ils loueront Dieu à cause de l'aide reçue. Et Paul dit aux chrétiens de Corinthe, « Mes frères, c'est là que vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Là, vous démontrez la réalité de votre engagement dans votre foi en Jésus-Christ. » Leur engagement dans la foi en Jésus-Christ est rendu visible et représente de fait un témoignage vivant pour ceux qui le reçoivent. Ils voient s'exprimer au travers de ce secours la réalité de leur foi. Elle est rendue visible. Ils n'aiment pas qu'en parole, ils aiment en actes. Et ces actes sont rendus visibles à ce moment-là, lorsqu'ils ont reçu les dons. Eh bien, je crois que ça doit nous parler aussi. Ce que vous faites pour autrui peut bouleverser la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Ça peut transformer sa vie, oui, d'un point de vue matériel, c'est vrai. Mais ça peut transformer sa vie aussi d'un point de vue spirituel. Cela peut transformer sa perception des choses. Des personnes peuvent être interpellées dans leur vie. Quand j'étais petit, je ne donne pas souvent des exemples, j'en donne un. Quand j'étais petit, notre pasteur m'emmenait, moi et mon frère, souvent dans la campagne, pas pour cueillir des champignons, mais en fait parce qu'il faisait des tournées missionnaires. Et pendant ces tournées missionnaires, donc, il allait dans les campagnes, et dans les campagnes où il allait voir les villages où les personnes étaient là, étaient les plus pauvres. Et je me rappelle, on allait avec lui, il mettait un gros tas de Bibles sur le siège arrière, il mettait des tracts sur le siège arrière, et dans le coffre, il mettait plein de vêtements. Et sa femme, Carole, préparait toute la semaine tous les vêtements qu'il recevait en don de Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, de France et de partout, les préparer, les classer, les laver, les nettoyer, les repasser, les classer par âge, par taille, il mettait dans un carton, on les mettait dans la voiture et on partait. Et quand on arrivait dans les campagnes, la voiture s'arrêtait et il ouvrait le coffre. Et quand il ouvrait le coffre, avant même qu'il ouvre le coffre, on voyait toute la famille qui sortait. C'était des paysans de la campagne, et pour ceux qui connaissent ces paysans de la campagne, ils témoignent pas forcément d'une sympathie au départ. C'est très difficile, en tout cas, de franchir cette barrière-là. Et bien pourtant, quand il ouvrait le coffre et que les personnes voyaient les habits, je peux vous dire que les personnes sortaient des maisons, venaient, ils étaient émerveillés par ces habits, ils choisissaient, les enfants en prenaient. Et là, c'était une merveilleuse porte ouverte pour l'annonce de l'Évangile. Des personnes acceptaient des évangiles, des bibles, des tracts. On pouvait parler librement, même nous en tant qu'enfants, librement de la parole de Dieu. Les personnes nous disaient que personne n'était jamais venu leur apporter quelque chose, que personne ne s'en souciait, même dans leur propre famille. Ils avaient vu que ce secours était quelque chose d'incroyable pour eux. Ça a ouvert des portes pour l'annonce de l'Évangile. Eh bien, je crois que le don qu'on peut apporter à quelqu'un peut être perçu bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Enfin, non seulement les chrétiens de Jérusalem qui vont recevoir ces dons seront contents de ce qu'ils ont eu, non seulement ils loueront Dieu et donneront des prières de reconnaissance envers Dieu, mais Paul dit encore au verset 14, ils prieront pour vous. Ils prieront pour vous qui avez donné. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Ils prient pour vous. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui revient avec du fruit ? Non seulement ils ont donné, mais en retour, ils reçoivent aussi des prières de reconnaissance. Ce secours crée une affection toute particulière pour ceux qui le reçoivent. Et parfois, lorsqu'on donne, on dit, bon ben voilà, on a donné, mais je ne sais pas bien ce que ça fera. Eh bien, je crois qu'on est invité à ne pas l'imaginer comme ça, à ne pas le comprendre de cette manière-là. On ne peut jamais imaginer ni comprendre la portée que peut avoir un don. Ce secours-là crée pour l'église de Judée une affection toute particulière des chrétiens envers leurs frères de Corinthe. Il les porte dans la prière parce qu'il les aime. Et ici, on peut comprendre facilement qu'une intime communion peut s'établir entre ces deux fractions de l'église de Jésus-Christ. Ceux qui, au départ, l'église de Jérusalem a annoncé l'évangile aux païens, et ces païens qui, eux, un jour, ont accepté l'évangile de Jésus-Christ et qui, aujourd'hui, peuvent à leur tour les assister d'une manière très concrète. Et on peut facilement comprendre que, entre ces églises, par ce secours, l'amour augmentera les uns avec les autres. L'unité entre les églises va se retrouver renforcée par cet amour mutuel, par ces prières, par ces actions de grâce. Et certainement, bien d'autres choses, bien des bénédictions sont aussi pour ces églises à ce moment-là. Elles seront enrichies de leur affection les unes pour les autres. Dans son exhortation, Paul montre ici pas simplement la nécessité d'un secours, mais toute la portée de cet engagement. Et nous sommes invités, nous aussi, à considérer ce secours en le regardant, je dirais, avec le prisme de la parole de Dieu. Et je crois que cet enseignement doit nous encourager également. Il doit nous encourager tout d'abord à laisser tomber nos préjugés quant à la nécessité de donner et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et à participer à l'aide envers ceux qui souffrent. Il doit nous encourager à prier parce que nous savons que ce secours peut porter du fruit bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il doit nous encourager à ouvrir nos cœurs et nos mains envers ceux qui sont dans le besoin. Il doit nous encourager à considérer toute la dimension que peut représenter une aide aux yeux de Dieu. Avec ce regard-là, on peut mieux comprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce sont des promesses de bénédiction de la part de Dieu, au-delà de ce que vous pouvez penser. Alors je voudrais terminer ce message en prenant l'exemple de Jésus. Lorsque Paul exhorte les Corinthiens dans ce passage, au chapitre précédent, lui aussi prend l'exemple de Jésus pour fonder son exhortation. Il dit « Vous connaissez », en 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et vous aussi, ici présent aujourd'hui, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus n'a pas regardé à lui-même. Il est venu en tant que serviteur. Et il disait, lui-même, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. N'a pas d'endroit, lui, où poser sa tête. Jésus-Christ est venu sans rien à lui. Et pourtant, il s'est livré à la croix à notre place. Il a pris le poids de nos péchés. Il a donné sa vie. Il est mort et il est ressuscité pour qu'en lui, nous ayons la vie et la vie en abondance, afin que par lui, nous soyons enrichis. Eh bien, je crois que nous sommes invités à notre tour, dans notre vie, à lui ressembler dans notre manière d'agir, à lui demander qu'il nous aide à faire de même et à aider ceux qui sont autour de nous dans la pauvreté. soyons prêts, agissons dans la joie, et Dieu bénira.